su la rubrique dantesque Intelletto d'amore, Intellect d'amour, je vais enchaîner quelques réflexions à partir de la chanson Donna me prega de Guido Cavalcanti. Je ne sais pas si le nom de Cavalcanti est connu en France au public de la poésie. Pourtant, il s'agit sans aucun doute d'un très grand poète, le seul peut-être qui soit comparable et même supérieur, au moins dans la lyrique amoureuse, à Dante, qui lui attribue d'ailleurs la gloire de la langue. Or, nous savons que Guido, tout comme Dante, était en même temps et au même titre un philosophe, l'un des meilleurs logiciens du monde et un très bon philosophe naturel, comme dit Boccace. Et nous sommes là dans un temps où la fracture entre poésie et philosophie, qui sera un fait accompli avec Pétrarque et Boccace et qui va caractériser durablement la littérature italienne, ne s'est pas encore réalisée. Et Boccace jouera justement dans cette fracture un rôle essentiel. En tout cas, la chanson en question a été toujours considérée très obscure. Bon, je n'ai pas la peine de remarquer cela. Que de la part de l'auteur, l'intention était bien ésotérique, est dit clairement cette fois dans l'envoi. La chanson a été écrite pour être comprise seulement dans les personnes qui ont l'intendimento. Des autres, qui restent exclus de la compréhension, la chanson s'éloigne dédaigneusement. Un exemple, à vrai dire extrême, du Trobarclus de Cavalcanti se trouve dans les vers 63-64, en particulier dans les deuxièmes, les 64. E non si può conoscer per lo viso compriso bianco in tale obietto cade. On ne peut pas le connaître par la vision, compris blanc en tel objet tombe. Enrico Fenzi, qui a dédié à la chanson une vaste et belle exégèse, tout en avouant qu'il s'agit de l'un des passages les plus tourmentés pour les interprètes, l'explique par ces mots. Je cite : L'amour ne peut pas être connu par un acte de compréhension fondé sur la vision, car il manque de toute lumière de couleur, bianco, blanc, qui puisse permettre l'acte de la vision. On ne voit pas toutefois pour quelle raison Cavalcanti devrait caractériser l'amour par ces termes, puisque ses poèmes, avec une contradiction évidente, présentent une phénoménologie ample et détaillée des apparitions et du semblant, du sembiante, du visage de l'amour. Je cite « Amour m'a paru, si tu vois amour, amour se montre, quand amour m'a paru, etc. etc. » Presque tous les exégètes modernes répètent cette interprétation avec quelques variations. L'effet est qu'ils dépendent, en grande partie tous, du commentaire de Dino del Garbo, oui, comme vous le savez, on en a parlé sûrement ici, un médecin à peu près contemporain de Guido, connu pour être l'auteur d'un commentaire de l'œuvre médicale d'Avicenne. Je cite, écrit Dino, « Dans la première partie de la chanson, les poètes veulent dire que l'amour n'est pas une chose qui puisse être connue par la vue, comme on connaît les blancs ou autres couleurs. En effet, la puissance visuelle tombe par rapport à cet objet, circa tale objectum cadit, c'est-à-dire la couleur. L'amour est en effet un accident différent de la couleur, et il n'est pas une chose perçue par la vue. Et c'est cela qu'il veut dire lorsqu'il écrit « Et non si può conoscere per lo viso, compreso bianco, in tal obiecto cade. » Il faut dire ici quelques mots sur ces commentaires qui a exercé une influence disproportionnée sur les interprètes modernes. J'ai dit « disproportionnée » car de deux l'un. Ou bien Dino était un génie de subtilité et d'ironie et il a voulu sciemment mettre sur un faux chemin le lecteur pour mieux garder l'ésotérisme de Guido. C'est possible, d'autant plus que les commentaires nous est connu uniquement par une transcription de la main de Boccace, qui était parfaitement capable de forger les textes, tout comme il avait inventé, pour dérouter les lecteurs de Dante, l'histoire, ou plutôt les commérages sur Béatrice, fille de Folco Portinari, plus tard mariée à Simone de Bardi. Bon, je vous renvoie pour cela à la considération de Curtius qui montre comment Dante, comme Boccace, a fait exprès de forger cette histoire pour dérouter, comme il dit lui-même, les lecteurs. Bon, ça fait partie de cette stratégie de Boccace, du passage de ce qu'était la poésie au temps de Dante à la littérature. Bon, ou bien, ce qui est également probable, Dino était un esprit médiocre, tout à fait complètement ignare de la philosophie de Guido et également sourd à sa poésie. J'insiste sur cela car ce qui me gêne, ce n'est pas tellement l'insuffisance de Dino que le conformisme des interprètes modernes qui se sont laissés dérouter par ces médecins qui n'avaient aucune autorité en matière. D'autant plus qu'il semble, Dino semble ignorer les traités médicaux sur la maladie d'amour dont je m'étais occupé à l'époque de Stanze, c'est comme l'Idium Medicinale, d'amour eroico d'Arnaldo de Villanova, le Pantecni di Costantino Africain, il ne se réfère jamais à ces livres. Voilà, donc je pense que la première chose est donc de restituer la chanson à son contexte propre, qui n'est certainement pas celui qui pouvait concevoir Dino Del Garbo. Bon, depuis les études de Bruno Dardi et de Christel, bon, ici on en a parlé beaucoup, nous savons que Cavalcanti était en rapport avec les averroïstes de Bologne et qu'il était lui-même un philosophe averroïste. Là aussi, quand on emploie ce terme averroïste, là, il faut éviter de projeter notre conception moderne de ce qu'est l'averroïsme avec, après 7 siècles d'histoire, à ce que pouvait être l'averroïsme dont il pouvait être question entre Dante et Cavalcanti. Bon, là, tout simplement, tout homme cultivé à l'époque lisait Aristote dans les commentaires d'Averroès et les suivait plus ou moins. Donc, entre Dante et Cavalcanti s'accuser d'averroïsme, il ne faut pas projeter notre idée sur cela, c'était sûrement pas ça la question. Bon, Enrico Fenzi évoque très opportunément dans son commentaire les textes de référence majeure à la question, c'est-à-dire les Commentarium Magnum ou De Anima, dans la traduction de Michel Scott. Toutefois, par des raisons que le spécialisme académique rend malheureusement compréhensibles, il préfère ne pas les citer directement et laisser la parole à un médiéviste dont l'autorité ne fait pas de doute, Alain de Libera. S'il avait pris lui-même en main les textes d'Averroès, dans l'édition de Stuart Crawford, par exemple, ou même dans la belle tradition d'Alain de Libera, il aurait été certainement surpris en découvrant que la phrase énigmatique « Un blanc tombe en tel objet » était une citation littérale du texte d'Averroès. À la page 462 de l'édition Crawford, on peut lire en effet cette phrase, elle aussi complètement sibylline à première vue, « Cecidit albedo in exemplari ». Qu'un philosophe averroïste comme Cavalcanti cite les commentaires n'a rien de surprenant, mais il vaut la peine d'examiner attentivement les choix de la citation et son contexte. Averroès est en train de commenter les passages du De Anima dans lequel Aristote parle de l'intellection des indivisibles, qu'il compare à la compréhension de la privation, stéresis, dont il donne comme exemple les mâles, tokakon, et les noirs, tomelan. Dans la traduction latine que Cavalcanti pouvait lire, ces termes sont rendus par nigredo et nigrum. C'est à ce point du commentaire qu'il se trouve la phrase cecidit albedo in exemplari, précédé d'un sic qu'il faut vraisemblablement corriger par hic ou, comme le suggère de Libera, le séparer par un point. La phrase signifie tout simplement « ici, il y a un blanc ». Il y a quelque chose, un mot ou des mots qui manquent. C'est une formule dont Averroès se sert plusieurs fois dans son commentaire. Averroès continue en effet en suggérant immédiatement que dans les passages qu'il est en train de commenter, je cite, « C'est de cette façon qu'il connaît l'obscurité et les noirs, il faut insérer comme sujet grammatical entre cognoscit et modum intellectus et visio, l'intellect et la vision. Ainsi intégré, le texte dit, et c'est de cette façon que l'intellect et la vision connaissent l'obscurité et les noirs. Si on garde notre hypothèse d'une citation cachée ou chiffrée, le problème est d'expliquer pourquoi Cavalcanti, tout en voulant évoquer les commentaires d'Averroès par une allusion textuelle qui seules les personnes qui ont un intendimento pouvaient comprendre, et poussé son snobisme jusqu'à choisir une phrase apparemment insignifiante, qui marque uniquement le manque ou le défaut d'un ou deux mots. Le texte de la chanson ne risquait pas-t-il de devenir, même pour les initiés, encore plus sibylline, encore plus énigmatique? Une réponse à cette question devient possible si on considère avec un peu plus d'attention le contexte d'où Cavalcanti a tiré sa citation. Il s'agit d'un passage particulièrement important, car Averroès, commentant le texte d'Aristote, y ajoute des réflexions qui permettent de préciser la nature et le fonctionnement de l'intellect possible ou matériel. Je cite, « En général, toutes les privations sont connues seulement par leur contraire, per contraria, c'est-à-dire par la connaissance de l'habitus et la connaissance du défaut de l'habitus. » Par les mots « obscurité », Aristote voulait dire la privation du blanc, « privationem albedinis ». Ici, il advient pour l'intellect la même chose que pour le sens. Et nous avons montré que la vue comprend l'obscurité par la connaissance du défaut des lumières, per cognitionem defectus lucis. De même, l'intellect comprend la privation par la compréhension du défaut des formes, defectus formae. N'oubliez pas ces mots parce qu'on les retrouve chez Cavalcanti. Donc l'intellect comprend la privation par la compréhension du défaut des formes. Comme délibéra Glose opportunément, je le cite, en posant que noirceur est mis pour privation de la blancheur, Averroès peut ensuite expliquer que la perception du noir suppose, un, celle de la blancheur, et deux, celle de sa privation dans la chose perçue, laquelle est de ses faits perçue comme noire. D'où la remarque suivante, au niveau de la connaissance et non plus de la sensation, connaître une privation, c'est un, connaître l'habitus lui-même, deux, c'est représenter son défaut. Toute privation est alors effectivement connue négativement à partir d'une position préalable et de sa négation. Fin de la citation du commentaire délibéra. Une fois restitué à ce contexte, les raisons de la citation chiffrée deviennent évidentes. Non seulement l'obscurité qui est évoquée plusieurs fois dans la chanson, au vers 16, 17 et au vers 68, doit être entendue per privationem lucis, mais le syntagme même, cecit albedo, acquiert la clarté ironique d'un index. Le blanc qui tombe est cela même qui rend intelligible l'obscurité, l'anigredo, et cette compréhension par privation définit le processus de l'intellection que Cavalcanti vise. Ce qu'on ne peut pas connaître par la vision est l'obscurité en tant que telle. Que l'intellect, qui est, comme dit le vers 23, les sujets de l'amour entend parfois parfaitement per contrarium. Et la phrase « forma non si vede », on ne voit pas la forme du vers suivant, devient intelligible si on la réfère au defectus formae, au défaut des formes par lesquelles, selon Averroès, l'intellect comprend la privation. Encore plus chargé de signification est le passage qui suit immédiatement dans les commentaires. Aristote, écrit Averroès, dit ensuite « Celui qui connaît doit être en puissance un et le même ». C'est-à-dire, il faut que l'intellect, connaissant l'habitus et sa privation, soit une faculté une et la même. De même que ce qui perçoit l'obscurité et la lumière est la même faculté de vision. Et il faut que cette faculté des connaissances perçoive la privation en se percevant d'elle-même comme étant impuissance. Comprendit excessé esse impotentia, quand elle est impuissance, puisqu'elle perçoit l'un et l'autre d'elle-même, à savoir l'être en puissance et l'être en acte. Telle est la disposition de l'intellect matériel. Fin de citation. Je crois qu'il s'agit là d'un point décisif de la doctrine d'Averroès sur l'intellect matériel. Et Cavalcanti, évoquant précisément ces passages par sa citation chiffrée, se montre non seulement un lecteur attentif du commentaire, mais aussi un philosophe puissant en propre. Ce qu'Averroès nous dit là est que, en connaissant l'obscurité, l'intellect matériel se connaît lui-même comme étant en puissance, et vice-versa, que pour l'intellect matériel, se comprendre soi-même signifie comprendre l'obscurité, l'absence de pensée, un acte. Mais cela veut dire, comme le note encore Delibera, que la privation est attachée à l'essence même de l'intellect. Il y a là une remarque générale à faire. Je pense qu'on peut classer dans l'histoire de la philosophie tous les philosophes en deux grandes familles. Il y a ceux qui définissent l'homme par l'acte de la pensée. L'homme est défini par l'acte des pensées, n'est fait que penser, n'est fait que penser. Et d'autres, parmi lesquels il y a Averroès, Dante, Spinoza, Artaud, Heidegger, qui par contre pensent que les hommes ne pensent pas encore ou ne pensent pas toujours, hein, mais ils peuvent, ils ont la puissance de la pensée. Les hommes pensent par intermittence, c'est les manques et l'arrêt qui définit la pensée. Donc, il y a ces deux grandes. Donc, là on est donc dans cette deuxième famille. Dante, le bonheur des monarchies, elle le dit très clairement. Bon, d'ici à dire que l'obscurité fait partie de l'intellect, il n'y a qu'un pas. Et ce pas est franchi sans ambiguïté dans un texte qui a été lu, à mon avis, par Cavalcanti et Dante, le traité de Intelligentsis, qui a été publié parmi les œuvres d'Avicenne, mais qu'il faut peut-être, selon la suggestion de Gilson, restituer à Gundisandus. Or, dans ce traité, on lit cette phrase « Intellectus in potentia est ipse tenebre » « L'intellect en puissance est la ténèbre même » et il ajoute « Lorsque l'intelligence agente s'approche et s'unit à lui, alors illuminat ipsum, il éclaire » Il y a là, me semble-t-il, quelque chose de plus qu'un simple renvoi au passage de Anima où Aristote suggère que l'obscurité est la couleur de la puissance. Aristote dit, là où le diaphane est en puissance, là est toskotos, le noir. Ce qui devait fasciner Cavalcanti, c'était bien l'idée que l'obscurité, qui est pour lui partie nécessaire de l'expérience de l'amour, n'exclut pas celui-ci de la connaissance. Au contraire, puisqu'un seul sujet est capable aussi bien de la puissance que de l'acte, faire l'expérience amoureuse de l'obscurité signifie faire en même temps l'expérience pleine de la puissance de l'intellect. C'est d'ailleurs précisément sur ce point qu'Averroès fonde sa conception très particulière du mode d'être de l'intellect possible. Jean-Baptiste a bien insisté sur ce point de la puissance, de l'intellect en puissance. Aristote avait dit que l'intellect n'a d'autre nature que d'être en puissance et l'avait comparé à une tablette pour écrire sur laquelle rien n'est encore écrit. Alexandre d'Aphrodisie, en reprenant l'image aristotélicienne, avait objecté qu'il faut comparer l'intellect matériel non pas à la tablette, mais à la tabula rasa, mais au rasum tabulae, à la préparation des cires qui les recouvrent et sur lesquelles on écrit. Contre Alexandre, Averroès affirme que même s'il n'est pas un corps ou une faculté dans un corps, l'intellect matériel, je cite, a la nature d'un sujet, est nécessairement, comme il dit, une certaine chose ou un certain étant. Le statut ontologique qui est ici en question n'est pas facile à concevoir, et on voit clairement qu'Averroès a une difficulté à le définir, car il s'agit de penser l'existence d'une pure puissance. Il manque. Comment une pure puissance peut-elle exister? Une privation. C'est pourquoi Averroès, comme Jean-Baptiste l'a souligné, parle à ce sujet d'un quatrième genre d'être, un quartum genus esse. Il est possible, me semble-t-il, de saisir ce statut ontologique tout à fait spécial si on se souvient que le propre de l'intellect matériel est de pouvoir se connaître soi-même comme étant en puissance, comprendit ex se esse in potentia, comme on lit dans les passages que Cavalcanti évoque. L'intellect est une pure puissance, une pure réceptivité qui se perçoit elle-même. C'est une structure très intéressante à penser, une pure puissance capable de se percevoir elle-même. Les plus averroïstes des anti-averroïstes, Albert Legrand, avait fait à ce sujet une observation très intéressante. Il dit « Lorsque l'intellect en puissance éprouve sa propre passivité, c'est comme si, c'est toujours l'image de la tablette pour écrire, c'est comme si les lettres s'écrivaient d'elles-mêmes sur la tablette. Quand l'intellect en puissance perçoit sa propre puissance, et il n'y a rien écrit encore, eh bien les lettres vont s'écrire d'elles-mêmes. La passivité se transforme en une activité autre qui n'est pas du sujet. Or, on l'a vu, cette auto-perception a pour Cavalcanti à faire avec l'expérience de l'amour et de son obscurité. Bon, si les considérations que j'ai faites, si cela est vrai, toute l'interprétation traditionnelle de la chanson est à revoir, mais complètement. Selon l'interprétation dominante qui a trouvé chez Bruno Nardi sa formulation exemplaire, mais qui encore une fois ne fait que répéter l'opinion de Dino Del Garbo, l'amour, tel que Cavalcanti le conçoit, à la différence de Dante, est une passion de la partie sensible de l'âme qui reste, en tant que telle, exclue de la sphère de la connaissance intellectuelle. Et voilà, encore, c'est Dino Del Garbo qui le dit clairement. Même si le poète a dit que la cause de l'amour est une image d'une forme visible qui finit par être comprise par l'intellect possible, cependant, la passion amoureuse n'a pas son être dans l'intellect possible, car celui-ci n'est pas une faculté du corps, ni une forme qui dérive des qualités des éléments mélangés. L'intellect est en effet une forme pure et incorruptible, dans laquelle seulement ce qui est universel et incorruptible peut être reçu. Or, à partir des analyses qui précèdent, c'est une toute autre interprétation qui semble s'imposer. L'invention géniale de Cavalcanti, de Dante et des autres poètes d'amour est précisément la situation de l'amour dans l'intellect possible. Comme la chanson dit sans ambiguïté, il possibile intelletto est le quasi sujet, le lieu ou la demeure de la veduta forma du fantasme qui produit l'amour. Là, il faut corriger, les éditions courantes non a possanza, n'a pas pouvoir, ou bien n'a pas possanza, n'a pas de demeure, ce qui contradirait lui-même le texte, puisque le texte dit qu'il demeure. Là, celui qui fait autorité, les plus grands philologues italiens, là, n'a pas lui possanza ni possanza, mais pesanza, n'a pas de douleur. Et c'est aussi ce que Dante affirme en parlant dans la Vita Nova d'un intellect d'amour, où le génitif est bien sûr autant subjectif qu'objectif. Et c'est aussi ce qui est suggéré par la citation chiffrée Ceci di Talbedo, car Averroès disait là que les noms qui manquent dans les passages en question sont justement intellectus et visus, et vitus, l'intellect et la vision. Il faut lire les poèmes de Cavalcanti comme une méditation sur la conjonction entre la vision et les facultés qui en dépendent et l'intellection. Il s'agit donc pour Cavalcanti non pas de séparer l'amour de l'intellect possible, mais au contraire de penser leur conjonction. Cela est d'autant plus vrai pour Averroès. Bon, après ce que Jean-Baptiste a dit, moi je suis entièrement d'accord avec lui, les interprètes modernes, convaincus comme ils sont que chacun pense avec son cerveau, semblent si déconcertés face à la thèse averroïste de l'intellect unique qu'ils n'entendent pas ce qui devrait être pourtant évident, c'est-à-dire que les problèmes spéculatifs de l'averroïsme, l'experimentum crucis de l'averroïsme, les problèmes importants de l'averroïsme, ce n'est pas la séparation de l'individu et de l'intellect, mais plutôt leur conjonction, que les traducteurs latins appellent copulatio ou continuatio. Bon, c'est d'ailleurs là ce que les interprètes raisons les plus avertis comme Delibera et Brenet ont parfaitement saisi. Et même Nardi le savait, parce que Nardi dit que par les fantasmes, l'individu s'unit à l'intellect. Mais après, mais entre parenthèses, c'est une chose qu'il a dit. Donc là, il faut donc renverser l'approche traditionnelle. Les problèmes de l'averroïsme, et donc aussi les problèmes de Kant, ce n'est pas comment penser la déliaison entre l'individu et l'intellect, mais comment concevoir la liaison. Tout change si on se met dans cette perspective. Bon, or, on sait, bon, Jean-Baptiste l'a très bien rappelé, qu'un rôle essentiel est joué ici par les fantasmes, c'est-à-dire par l'imagination. La jonction ou la continuation des intelligibles avec les individus s'est fait par le biais des intuitions, d'intentions imaginate. On peut dire, comme le fait Averroès et comme René le répète en soulignant les caractères statiques, qu'il y a deux sujets de l'intellection, dont l'un est l'intellectus materialis et l'autre les fantasmes, les images. Ou, comme le dira Siger en soulignant les caractères dynamiques, l'intellect possible est éternel et séparé quant à ses substances, mais quant à son opération, est corruptible car il est uni au fantasme individuel. Il est essentiel ici de saisir la fonction fondamentale qui est jouée par l'imagination. Comme dit Averroès, sine virtute imaginativa nihil intelligit intellectus. Tout ça n'est qu'un long commentaire sur cette phrase du De Anima, huc aneo, non sans les fantasmes. La pensée ne pense non sans les fantasmes. À la limite entre le corporel et l'incorporel, l'individuel et l'universel, l'imagination est l'extrême scorie que la combustion de l'existence individuelle abandonne sur les seuils de l'éternel et du séparé. Or, chez les poètes d'amour, on retrouve la même centralité de l'imagination. La découverte de l'amour dans la poésie médiévale est la découverte du caractère fantasmatique, imaginatif de l'expérience amoureuse. L'amour, le tondale di amore di Andreas Capellanus, est l'immoderata cogitatio du fantasme de l'imagination. Et c'est bien pour cela que le lien amoureux par excellence est pour le Moyen-Âge une fontaine ou un miroir, ou dans les romans de la Rose, les dieux d'amour demeurent près d'une fontaine qui n'est autre que le miroir périllé de Narcisse. Narcisse, pour le Moyen-Âge, n'est pas le symbole de l'amour de soi, bon, ça c'est connu, mais de l'amour pour une image. L'objet du désir amoureux est l'intentio imaginata d'Averroès. Les poètes iront très loin dans cette direction, jusqu'à personnifier les fantasmes. Comme dit Cavalcanti, formando di disio nova persona, en formant par le désir une nouvelle personne. À partir du fantasme désiré, on forme une personne. Tous ces noms de femmes, tous ces signaux qui peuplent la poésie d'amour du Moyen-Âge, Béatrice, Giovanna, Monna Laggia, etc., nomment précisément les fantasmes en tant qu'il opère dans l'expérience amoureuse la conjonction avec l'intelligence séparée. Béatrice est la connaissabilité, pour ainsi dire, d'une substance séparée, les fantasmes qui rendent possible l'union avec l'intellect et donc la béatitude. Y a-t-il aussi chez Averroès quelque chose qui ressemble, qui rassemble à ces liens, hein, qui nouent ensemble l'amour et l'imagination chez les poètes. Je pense qu'on peut répondre affirmativement, ce qui rend encore plus étroit les rapports des poètes avec l'avéroïsme. C'est au moment où Averroès commente la page 433A du De Anima, c'est aux pages 516 et 519 de l'édition Crawford. En commentant les textes d'Averroès et d'Aristote, Averroès écrit ici, je cite, « Il y a des principes du mouvement, l'intellect et les désirs, desiderium aut imaginatio, le désir ou bien l'imagination qui est semblable à l'intellect, est similis intellect. Donc il y a deux principes du mouvement, l'intellect et les désirs ou bien l'imagination, qui est semblable à l'intellection. Mais Averroès souligne très fortement la proximité et presque l'identité entre intellect, imagination et désir, en tant que principe du mouvement du vivant. Je cite encore, « Ce qui met en mouvement les vivants, ce n'est pas l'intellectus per se, l'intellect en soi tout seul, ni le desiderium per se, le désir en soi, car l'intellect ne peut pas mouvoir sans la volonté et l'imagination ne peut pas mouvoir sans le désir. » Fin de citation. Il n'y a donc pas vraiment deux principes du mouvement, l'intellect et le désir, mais un seul. Averroès le souligne. Ainsi, Averroès peut écrire « Et tunc desiderabit intellectus ». C'est l'intellect qui désire. Hein? Alors l'intellect éprouvera du désir et lorsqu'il désirera, l'homme sera nu par la vertu désirante, virtus desiderativa, qui est l'intellect ou l'imagination. Vous voyez, l'intellect ou imagination, l'imagination, l'intellect, tout s'est fait hein, dans les désirs. C'est l'intellect imagination qui désire, hein? Tunc desiderabit intellectus. Et c'est bien ce que Dante appellera intelletto d'amore, intellect d'amour. Averroès tient d'ailleurs à souligner les primats, la présence du désir, du desiderium, par rapport au simple appetitus, comme il l'appelle. Là encore, il va jusqu'à corriger par la formule qui désormais nous est familière. Ita cecidit in scriptura, là il y a quelque chose qui tombe, encore une fois, le texte qu'il a sous les yeux, qui disait desiderium est aliquid appetitus, le désir est une sorte d'appetitus. Il va corriger cela et il va le renverser, il va écrire appetitus est aliquid desiderium. L'appetitus est une espèce du désir. Il y a une présence du désir sur la, ce qu'il appelle la pulsion, l'appetitus. Il va donc écrire Parts anime desiderans est movens universaliter. La partie de l'âme qui désire est celle qui meut de façon universelle. En accordant au désir et à l'amour une place, peut-être la place fondamentale dans le processus de la connaissance qui réalise le bonheur suprême, les poètes restent donc fidèles à Averroès. Jean-Baptiste Brenet, dans une série d'études remarquables, mais les a citées là lui-même aussi, a montré les rôles que la volonté et les désirs jouent chez Averroès dans l'acquisition de la pensée et des actions. Adeptio, terme farabien à l'origine, désigne chez Averroès l'union de l'intellect matériel avec l'intellect agent. Je cite là un passage bien connu. Et quand l'intellect matériel est uni, copulatus, à l'intellect agent, en tant qu'il est parfait par l'intellect agent, alors nous sommes unis, copulati, à l'intellect agent. Et cet état est appelé acquisition, adeptio, et intellect acquis, intellectus adeptus. D'ailleurs, les sonnets de Cavalcanti qui commencent « Certo non è dell'intelletto accolto » doit être entendu dans ce sens technique. Ce n'est pas de l'ordre de l'intellect adeptus. Intelletto accolto est une bonne traduction italienne d'intellectus adeptus. Même dans des vulgarismes, on trouve intelletto accolito. Or, c'est sur ces moments décisifs qui est l'adeptio, qui est fidèle encore une fois à la pensée d'Averroès, les poètes se concentrent. Jacques Lacan a écrit une fois que, je cite, « les fantasmes font les désirs propres au plaisir ». En paraphrasant cette phrase, on peut dire que pour Averroès et surtout pour les poètes d'amour, les fantasmes par les désirs font l'intelligible propre au sujet. L'intelligible m'appartient car il était imaginé et désiré sous la forme d'une femme chez les poètes. Encore une fois, on voit le rôle fondamental que l'imagination et le désir jouent dans la pensée médiévale, mais Jean-Baptiste a très bien montré ça aussi. Et voilà, je voudrais abandonner, non pas conclure, car dans la pensée, il n'y a jamais de conclusion possible. Je veux donc abandonner mes réflexions sur un problème qui me semble important. Peut-être qu'on n'a pas assez, on n'a pas assez remarqué. Comment concevoir la copulatio qui advient de l'adeptio? Cette conjonction est problématique car elle s'est faite par le biais d'un fantasme qui doit nécessairement disparaître et s'abolir lorsque l'intentio imaginata, l'image, le fantasme, devient intentio intelligibilis. Concept, on peut dire, je ne sais pas. En reprenant l'image de Cavalcanti, Ceciti d'Alpedo, il y a là un blanc. Et la copulatio s'est faite par ce blanc et cette disparition. Je propose de penser cette union problématique par blanc comme un contact au sens que Giorgio Colli donne à ce terme. C'est un point, je pense, très important. En développant la caractérisation aristotélicienne de la pensée comme tigein, touché, Colli appelle contact l'interstice métaphysique, dit-il, ou les moments dans lesquels des états sont séparés uniquement par un vide de représentation. Il dit « des points sont en contact dans le sens qu'entre eux il n'y a rien. Contact est l'indication d'un rien de représentation. » Lorsque des états sont unis uniquement par un vide de représentation, il y a contact. Je trouve que c'est une très belle définition d'un contact, de ce qui se passe à la limite de la pensée. Voilà, c'est justement, me semble-t-il, ce qui se passe dans la copulatio avec l'intellect. Les fantasmes, en disparaissant, laissent un vide de représentation, un blanc, si vous voulez, par lequel l'intellect s'unit à l'individu. Or, c'est précisément sur ce point que les poètes ont concentré leur attention. On ne comprend pas cet événement singulier qui est dans la Vita Nova, la mort de Béatrice, si on ne voit pas qu'il s'agit justement de la mort du fantasme, objet d'amour, qui doit disparaître pour que la connaissance achève son parcours. Disparaître, sauf à réapparaître transfiguré dans la vision paradisiaque. Et je crois que c'est peut-être là qu'on peut saisir ce qui sépare Cavalcanti et Dante. La différence ne consiste pas, comme on l'a toujours répété, dans le fait que Cavalcanti conçoit l'amour comme une expérience limitée dans la sensation, etc. Et Dante, non, la différence est dans la stratégie par rapport au fantasme. Tandis que Dante fait mourir Béatrice, son fantasme, pour la retrouver au paradis, on dirait que pour Cavalcanti, l'expérience amoureuse de la contemplation du fantasme implique avant tout, au contraire, la mort du sujet. Comme on lit dans l'un des plus beaux poèmes de son canzoniere, je le cite, « Je vais comme celui qui est hors des vies, qui semble à celui qui les voit être un homme fait de cuivre ou de pierre ou de bois, qui ne s'aimait que par artifice et porte dans son cœur une telle blessure qui montre ouvertement comment il est mort.